Bonjour, vous écoutez Nouvelles Perspectives, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous.
Salut Maxime Navarro, je suis absolument ravie de te recevoir dans mon émission radio Nouvelle Perspective, émission qui est diffusée donc le lundi à 11h, le dimanche à 12h30 et dans laquelle je parle évolution professionnelle et actualité du web puisque les deux sont très liés. Salut Maxime.
Bonjour Nathalie, merci pour l'invitation.
Je t'en prie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour nous parler de ton parcours professionnel et de ta reconversion. Parcours professionnel qui n'a pas été linéaire, qui n'a pas non plus été sans embûches. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui comme métier ?
Alors, aujourd'hui, j'ai créé ma boîte il y a 2 ans et je suis courtier en prêt et en assurance. Donc avec une offre complète, mais on y viendra peut-être après.
Oui.
Mais bon, alors, courtier en prêt et courtier en assurance.
Particulier, professionnel. Et ta boîte, elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Négocie au Max.
Négocie au Max, Max comme Maxime, bien vu.
Exactement.
Alors, tu faisais quoi avant ?
Donc avant, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la banque, donc de 2018 à 2023, 5 ans. Donc où je travaillais à la banque Tarnot, qui a fusionné avec Société Générale.
Et pourquoi tu as arrêté d'être banquier ?
Parce que je travaillais dans une banque locale, donc Banque Tarnot, pendant 5 ans, puisque je suis parti au moment de la fusion. Et en fait, c'était plutôt une banque quand même qui était tournée vers le client, même si à la fin, c'était un peu plus compliqué. Mais c'était quand même une banque tournée vers le client, qui correspondait totalement à mes valeurs. Quand est arrivée la fusion, on le savait depuis déjà un certain temps, depuis le Covid, donc 2020. On savait qu'elle allait être effective en 2023. Ouais. Et sauf que j'ai fait plusieurs villes. Donc j'ai commencé à Angoulême en 2018, puis j'ai eu La Rochefoucauld en 2019, et ensuite je suis parti à Périgueux fin 2021. Et sauf que quand je suis arrivé à la banque Tarnot de Périgueux, c'était un directeur de groupe qui était rattaché Société Générale, et donc les valeurs de la Société Générale étaient déjà bien présentes. Donc, je passais d'une banque locale à une banque internationale, et les valeurs n'étaient plus du tout les mêmes, et ça correspondait plus du tout à moi. Donc perte de sens du métier. En fait, 2 mois après être arrivé à Périgueux, je réfléchissais déjà à ce que je pouvais faire. Alors, ce n'était pas du tout le but, puisque j'arrivais sur un poste de conseiller pro, c'est dont je souhaitais, puisque j'avais fait mes études sur ce marché-là.
Ok. Donc, 2 mois après, tu arrives dans un nouveau poste et tu te rends compte que ce n'est pas du tout aligné, ce n'est pas du tout raccord avec tes valeurs. Toi, tu es plus orienté service client. Et là, il y avait quoi ? Il y avait des gros objectifs de rentabilité, c'est ça ? Les chiffres, les dérives qu'on peut connaître, en gros ?
Oui, exactement, c'est ça, en fait. Moi, j'arrivais sur un... En plus, sur le poste de pro, c'est là où on a le plus de valeur à ajouter par rapport au particulier, où c'est quelque chose d'assez classique. Le pro, chaque besoin est différent en fonction du projet professionnel de la personne qu'on a en face. Mm-hmm. Donc moi, je suis vraiment quelqu'un dans la recherche de relations personnalisées avec mes clients. Et sauf qu'effectivement, au début, on a quand même une période d'adaptation où il faut qu'on rencontre nos clients, donc ça va. On ne met pas trop la pression. Mais après, effectivement, il faut proposer des produits dont les clients n'ont pas forcément besoin. C'est la semaine du blanc une fois, puis ensuite c'est la semaine du noir. Donc ça me correspondait pas et on n'était pas du tout dans une relation personnalisée avec nos clients.
Donc beaucoup plus de standardisation, une orientation beaucoup plus rentabilité finalement que service client. Tu as décidé de partir et est-ce que tu as immédiatement décidé de créer ta boîte ? Comment ça s'est passé ?
Ouais, c'est la première chose. En fait, j'avais déjà cette envie depuis un certain temps, mais après je réfléchissais sur... En fait, le problème, c'est quand on a fait des études qui sont... assez spécialisé dans un domaine, qu'on a travaillé dans le domaine dont on a fait les études, c'est compliqué de se dire de sortir et de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre que travailler dans la banque ou dans les assurances. Ouais. Je savais très bien que si je quittais la banque, j'allais dans une autre banque, ça aurait été la même chose. Donc déjà, cette option, elle était supprimée de ma tête. Aller dans les assurances, il y avait de fortes chances que ce soit la même finalité. Donc la seule chose que je pouvais faire, c'était de créer en fait quelque chose qui me correspond tout à fait. Et au moins, je pourrais exercer une relation personnalisée avec mes clients, proposer des produits qui correspondent à leurs besoins et pas les attaquer de tous les côtés avec des produits dont ils n'ont pas besoin. Mmh. Donc, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Je souhaitais quand même rester dans mon secteur de connaissance, c'est-à-dire les prêts et les assurances. Donc, ça, courtier en prêt et courtier en assurance, l'idée m'est tout de suite venue. Donc là, aujourd'hui, je suis courtier en prêt en assurance, mais à la base, j'avais créé quelque chose de beaucoup plus complet dont le but était la problématique principale des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et donc, je voulais répondre de manière plus large à la réduction du pouvoir d'achat des Français. Et donc, en fait, à la base, j'avais créé une société de courtage en prêt, en assurance, en travaux et en automobile. Et à côté de ça, en plus, je faisais de l'accompagnement auprès des pros sur leur administratif. Voilà, j'ai commencé à réfléchir au projet, on était février 2022.
Ok.
J'ai acté les choses que fin janvier 2023. Donc, il y a eu quand même un an de construction de l'offre.
Un an. La construction de l'offre, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Moi, j'ai pas mal bossé avec des indépendants, des formateurs, des gens qui essayaient justement de créer une offre. Et en fait, c'est pas du tout facile de trouver des poches de rentabilité, de comprendre le marché, de bien l'analyser. On a toujours cette espèce de discours qu'on lit et qu'on voit partout. Suis ton cœur, fais ce qui te fait envie et ça finira par marcher. Dans les faits, en face, si justement il n'y a pas de marché, bah, tu vas juste te cracher comme l'essentiel des entrepreneurs, il ne va rien se passer. Donc, il faut aussi trouver un marché en croissance. Donc, tu en as parlé, baisse du niveau de vie des gens. Déjà, est-ce qu'il y a eu un premier déclic chez toi ?
Ouais, alors le premier déclic, donc, c'est le ras-le-bol de la banque. Et le deuxième déclic, j'ai vu un soir ou en journée, bref, peu importe, une émission, bah, une personne qui faisait justement du courtage automobile. En fait, lui, son but, c'était d'optimiser au mieux le tarif de l'achat de la voiture ou de la vente de la voiture des personnes. Donc, je me suis dit, en fait, c'est applicable à l'automobile, c'était applicable dans d'autres choses. Donc, la création de Négociomax, donc il y avait plusieurs secteurs, donc le prêt, l'assurance, automobile, les travaux. C'est ça qui m'a donné cette idée globale de pouvoir répondre à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Donc, en fait, c'est une émission, à la base.
C'est une émission. Comme quoi, hein, tu vois, les médias ont une influence significative sur nos choix individuels.
Puis après, globalement, s'il y avait une autre émission à citer, c'était « Qui veut être mon associé que je suis depuis des années ?»
Ah ouais, super, ouais. Alec Henry et compagnie, ouais, j'adore. Donc, on a parlé du déclic, c'est rigolo parce que c'est le nom du podcast d'Alec Henry. Et t'as été quoi ton plus gros challenge pendant cette reconversion ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à surmonter ?
Vu que je souhaitais démissionner et pas négocier de rupture conventionnelle, parce qu'en fait, c'était compliqué. Je venais d'être muté, donc je me dis, c'est compliqué quand même de... Donc, je souhaite démissionner et je découvre, en recherchant sur Internet, qu'on peut monter un dossier... Démission, reconversion.
Ah, t'as fait ça ? Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai fait un dispositif démissionnaire, c'est rare. Enfin, je pense qu'il y en a de plus en plus avec l'augmentation des refus de rupture conventionnelle. Mais c'est encore assez rare. Moi aussi, je suis passée par un dispositif démissionnaire à l'époque. Je te rends la parole, pardon.
Donc, il y a eu ça. Donc, il a fallu traiter avec un conseiller en évolution professionnelle.
Pour ceux qui ne savent pas, pour les dispositifs transition pro, il faut passer par un CEP, conseil en évolution professionnelle. C'est un service de l'État, il y a un numéro gratuit, vous pouvez appeler, vous trouverez facilement en tapant sur Google CEP et sur le site du gouvernement, vous aurez le numéro qui va bien. Donc, conseil en évolution professionnelle.
Donc, c'est cette personne qui t'accompagne pour la création du dossier de manière à ce qu'elle soit acceptée en commission. Donc, il y a eu ça. Et après, il y a eu surtout, une fois que ça s'est validé, c'est-à-dire qu'on peut démissionner sereinement. Mm-hmm. Mais quand même, annoncer à son employeur qu'on veut démissionner, c'est pas une chose simple, surtout que, en fait, la banque m'avait donné ce que je souhaitais quelques mois auparavant.
Donc, il y a une forme de culpabilité, c'est ça ?
Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Un peu de culpabilité. Sachant que c'était une mobilité professionnelle, donc ça s'accompagne aussi d'une partie financière. Je voulais pas qu'ils aient un sentiment de trahison ou quoi que ce soit. Donc, c'est cette partie-là aussi qui a été compliquée. D'ailleurs, l'entretien était assez costaud. Je dirais que c'est les deux principales choses les plus compliquées après s'inscrire à France Travail pour pouvoir bénéficier de l'aide au retour à l'emploi.
C'est ce que tu définirais comme ton plus gros challenge dans ta reconversion ?
Et avec le fait de passer, de sauter le pas, quoi, de passer du statut de salarié à entrepreneur, quoi. Donc ça, c'est les deux choses.
Est-ce que tu peux témoigner justement de ce que ça implique de passer de salarié à entrepreneur ? Moi, je le sais, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue également.
Que ça implique ? Ça implique beaucoup de doutes, on n'est pas sûr de ce qu'on va faire. Enfin, on est sûr de ce qu'on va faire, mais on ne sait pas si ça va marcher. Donc, il y a ce doute, mais qui est un peu compensé si on part surtout du revenu. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner après.
Ouais.
Donc, ça, c'est compensé quand même les deux premières années. Alors, à l'époque, moi, j'ai bénéficié des deux premières années d'aide au retour à l'emploi. Donc, déjà, c'est pas mal parce qu'on n'a pas cette question de revenu à se poser pendant 2 ans.
À l'époque, c'était 2 ans. Aujourd'hui, c'est plus 2 ans.
Oui, c'est 18 mois maintenant.
Oui, et ça va ou ça a été raccourci à 15 même.
Ah oui ?
C'est le projet, en tout cas. Je ne sais pas si ça a été mis en œuvre ou pas encore, mais c'était dans les tuyaux.
Mais bon, moi, j'ai pu bénéficier de 2 ans. Donc,
fait partie des chanceux qui avons encore bénéficié de 2 ans de...
C'est ça.
D'ARE.
C'est ça. Donc, c'est le saut dans le vide, en fait. Hein. Donc, on ne sait pas si notre projet va fonctionner, on ne sait pas ce qu'on va gagner après, et même quand... 2 ans plus tard, il y a toujours le stress de pouvoir...
Pouvoir gagner ta vie correctement, c'est ça ?
C'est ça. Là, c'est plus la stabilité d'un CDI, même Même dans la tête, en fait. C'est le mental aussi.
Anxiété.
Ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que même dans les futures années, ça s'accompagne de stress quand même. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc,
Des revenus, du flux de clients, anxiété, ça va avec l'entrepreneuriat quand même beaucoup. À moins d'être déjà dans une situation financière confortable, d'avoir ou des rentes ou une conjointe, un conjoint qui gagne bien sa vie. Si ce n'est pas le cas et qu'on dépend vraiment de son entreprise pour gagner sa vie, c'est souvent beaucoup d'anxiété, effectivement.
Travail aussi.
Et alors, du coup, parle-nous de ta charge de travail un peu.
Par rapport au salariat, là, je travaille deux fois plus que...
Que quand tu étais salarié. Tu t'évaluerais ta semaine de travail à combien, à peu près?
Ah bah là, on est plus proche des 65, 70 heures de travail.
Moi aussi.
Là, faut y être préparé, quoi. Enfin, ça, je m'étais préparé à l'avance. Je savais que ça n'allait pas être simple. Ouais. Et étant seul, pour l'instant, en tout cas, étant seul, faut tout faire. Donc, il n'y a pas que le vent. Il faut faire le marketing, il faut faire la communication, il faut faire la comptabilité.
Exactement. Communication, comptabilité, travail commercial, travail de gestion, travail de prospection. Tu l'as bien cité, c'est énormément de travail qui est invisible de l'extérieur pour nos clients. Nos clients nous voient quand on est en interaction avec eux, mais ils ne voient pas tout le travail caché. Notamment, par exemple, aujourd'hui, il y a un travail de communication. Tu passes à la radio. Ça fait partie aussi du boulot pour se faire connaître. Ça fait partie des choses qui sont cachées. L'émission cachée de l'entrepreneur. Donc, si vous envisagez de créer votre entreprise, soyez conscient qu'il y a beaucoup de missions cachées et renseignez-vous. Peut-être rapprochez-vous de quelqu'un qui fait ce que vous voulez faire et demandez-lui quelles sont toutes les missions cachées de son entreprise, de sa nouvelle activité. Surtout en tant qu'indépendant. Indépendant, c'est très dur dans le sens où là, vraiment, tu dois tout faire. Donc, c'est hyper important de très vite trouver des partenaires.
Mais c'est le point le plus important, c'est de bien comprendre ça avant de commencer parce que...
Ouais.
Souvent, je vois des entrepreneurs qui ont démarré puisque j'ai un réseau d'affaires aussi à côté.
Mmh.
Et je sais ceux qui ne vont pas fonctionner, je sais ceux qui vont fonctionner.
À cause de l'état d'esprit?
Ouais, clairement, l'état d'esprit qui est pas du tout bon. Quoi. Quand on me dit que ça va être simple, machin, non, ça ne va pas être simple, ça, c'est pas possible. Ouais, à moins d'avoir. Enfin, même quoi qu'il arrive, ça ne va pas être simple. Donc, ouais, l'état d'esprit et surtout, je vois ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas.
Donc, gros critère déterminant pour réussir dans l'entrepreneuriat et notamment en tant qu'indépendant, la capacité à supporter une charge de travail élevée. Capacité de travail, voilà. Capacité de travail importante, productive également, hein, pas se perdre dans des tâches inutiles, mais réussir à rester focalisé sur les tâches centrales. J'entendais il n'y a pas longtemps, c'était un podcast entre le docteur Romain Bouvet, qui est docteur en psychologie spécialisé en neuromarketing, et justement Alec Henry. Ils ont discuté de ce sujet. Quel est le meilleur critère prédictif pour savoir si un entrepreneur va réussir ou pas? En fait, ce qui était sorti, c'était, tu sais, dans le modèle des Big Five, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est la consciencieusité, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire la capacité à bien faire les choses de manière disciplinée et avec conscience, tu vois, être consciencieux, comme on dit tout simplement. Êtes-vous consciencieux, êtes-vous discipliné, êtes-vous en capacité de faire bien les choses, toutes les choses jusqu'au bout, avec rigueur, tu vois. Typiquement, tu parlais d'Alec Henry, lui, il a une conformation d'esprit. Il suffit de lire ses contenus. Tu vois ce genre de profil très efficace, tout est toujours bien fait jusqu'au bout et il ne se disperse pas en faisant tout et n'importe quoi. Et bien ça, typiquement, c'est le genre de profil qui a un max de chances de réussir dans l'entrepreneuriat. Êtes-vous consciencieux ou pas? Si vous n'êtes pas consciencieux, si vous êtes un peu dispersé, si vous avez tendance à vous perdre dans des tâches périphériques, si vous avez besoin d'être cadré, a priori, l'entrepreneuriat, ça va être compliqué pour vous. Après, je ne veux pas forcément être très négative dans le sens où il suffit d'avoir d'autres sources de revenus et forcément, tu peux être entrepreneur sans que ce soit ta principale source de revenus, auquel cas, là, évidemment, tu as moins de pression. Ça réussit. Et donc, tu m'as dit, tu fais partie d'un club d'affaires. Tu nous en parles vite fait?
Ouais, c'est avec Pascal Perchon, qui a la marque Accessible, enfin qui a créé la marque Accessible, club d'affaires pour les TPE, PME en local, dont le principe est assez simple, hein, c'est grandir ensemble. Donc, la grosse partie des réunions, c'est sur le partage de connaissances, le partage de valeurs, le partage d'expériences. Donc, en fait, ça permet de effectivement grandir ensemble, puisqu'il y a une exclusivité de la profession. Donc, sur les tours de table qu'on fait, c'est pas des présentations en pitch elevator, c'est deux, trois questions qui sont reçues la semaine précédente de la réunion, ce qui permet aux entrepreneurs de travailler la question. Et en fait, quand on fait le tour de table, c'est assez puissant, puisque du coup, il y a plein d'informations qui ressortent pour répondre à cette problématique. Et du coup, ça permet d'enrichir chacun, sachant qu'on ne renforce jamais un concurrent. Il y a une exclusivité.
Donc, il ne peut pas y avoir deux professions identiques dans ton club d'affaires. C'est intéressant, tu as remis du collectif et de l'entraide. En quittant le monde de l'entreprise, on pense qu'on va se retrouver seul et isolé. Et finalement, pour réussir, il faut quand même remettre une certaine dose de collectif et de partenariat.
Bah, le réseau, c'est... Enfin, sans réseau, c'est pas la peine. Donc,
ouais.
Le réseau est très, 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 très important, que ce soit sur le... Alors, moi, je travaille plus avec le réseau local, c'est-à-dire le réseau physique. Après, il y a aussi les réseaux sociaux, mais pour moi, le premier levier d'affaires, d'opportunités, c'est le réseau en local.
Oui, en local, sachant que toi, tu es à Limoges.
Oui, exactement. Je suis remonté à Limoges début mai 2024, après un an et demi sur Périgueux avec la boîte.
D'accord, un an et demi avec ta boîte sur Périgueux, puis à Limoges.
Bah justement, j'ai quitté Périgueux puisque c'était compliqué au niveau. En fait, moi, j'ai pas. Limoges, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai toute ma famille, mes amis.
Ah, c'est intéressant. Tu t'es déplacé géographiquement pour retrouver ton réseau initial et pouvoir te développer à partir de là. C'est la première fois que j'entends ça et je trouve la démarche extrêmement intéressante. Comme quoi, vous voyez, ne négligez pas votre besoin de réseau pour développer votre activité commerciale. Moi, je le défendrai toujours. D'ailleurs, j'ai une formation, un programme qui s'appelle LinkedIn Pro, développe ton réseau, crée et développe ton réseau. Et en fait, j'apprends ça en fait sur ton réseau réel. Sur ta base de réseau réel, développer ensuite ton réseau professionnel, effectivement pour trouver des partenariats, pour trouver en B2B, donc business to business, pour trouver des clients en B2C, business to consumer. Bref, le réseau, c'est important, surtout quand on est entrepreneur, surtout quand on est indépendant. La réputation, c'est important également pour réussir, surtout aujourd'hui où quand même le marché est tendu. Imaginons, quel genre de personnes ont besoin de tes services ? C'est quoi ton client type aujourd'hui ?
Mon client type, alors sur l'assurance, ça peut être tout le monde, puisque donc moi, je suis courtier, je travaille avec aujourd'hui, j'ai une trentaine de partenaires sur l'assurance.
D'accord.
Donc, en fait, quand tu viens me voir, c'est comme si tu voyais 30 assureurs en même temps. Okay. Donc, ça permet déjà de gagner du temps.
Ouais.
Et après, je peux répondre précisément aux besoins de mes clients, puisque il y a des demandes qui sont des fois atypiques, ou sur le pro, c'est vraiment personnalisé encore plus. Donc, je peux vraiment répondre à la demande précise du client. Donc,
okay.
Donc sur l'assurance, c'est un peu tout le monde. Et ça permet aussi d'économiser le plus possible, puisqu'on a un panel de contrats qui est assez important. Donc, pour l'assurance, c'est vraiment tout le monde qui peut être...
OK. Alors, on va lister un peu pour que ce soit concret quand même pour les gens. Assurance de sa maison, assurance de sa voiture, mutuelle, assurance professionnelle, c'est ça, responsabilité civile. Sur quoi tu interviens en fait concrètement ?
Moi, je suis un peu le médecin généraliste de l'assurance. Donc, j'ai du particulier, du professionnel. Sur le particulier, il y a tout ce qui est effectivement assurance auto, habitation, moto, bateau, enfin tout ce qui peut s'assurer, ainsi que la prévoyance du particulier, notamment accident de la vie, garantie d'essai, capital obsèque. Et sur le pro, c'est tout ce qui va être, sur le particulier, il y a aussi tout ce qui est mutuel, santé. Mais sur le pro, c'est pareil, c'est prévoyance, donc le maintien de ses revenus. Là, c'est un gros marché, c'est... Un travailleur non salarié sur deux qui n'est pas équipé d'un contrat de prévoyance. Alors, quand on sait ce que prévoit le régime des indépendants quand on est en arrêt de travail, y a une grosse lacune là-dessus. Donc là, il y a un gros marché là-dessus. Ensuite, il y a tout ce qui est mutuelle santé, RC Pro, l'assurance des locaux. Enfin, en gros, tout besoin d'assurance peut être répondu.
Bon, en gros, c'est plutôt des gens qui viennent renégocier leur contrat d'assurance, non ? Tes clients,
oui, exactement. Sur le pro, ça peut être aussi sur de la création d'entreprise.
Okay.
Et après, j'ai l'autre marché que je n'ai pas abordé, c'est le plus gros marché pour moi, c'est l'assurance de prêt. Où, pour ceux qui ont encore un contrat en banque, l'économie, elle est quand même de 40 à 50% avec, en moyenne, 40 à 50% avec des garanties complémentaires dont les banquiers ne parlent pas, d'ailleurs.
C'est marrant parce qu'en tant qu'ancien banquier, quand même, tu sais de quoi tu parles, quoi. En tant qu'ancien banquier, tu connais les propositions d'assurance des banques et donc tu es en capacité de dire que tu fais 40 à 50% mieux qu'eux avec tes propositions qui sont directes où il n'y a pas la banque qui intervient.
Exactement. Et surtout, c'est quand je me suis mis courtier en assurance que je me suis aperçu, en fait, des lacunes qu'on avait en banque. C'est-à-dire que...
Tu savais pas que les contrats... Étaient...
Un contrat d'assurance emprunteur, je ne connaissais pas la globalité des garanties qu'on peut proposer, puisque de toute façon, on n'en parle pas. Si vous avez fait un crédit en banque, on vous a parlé du taux d'intérêt, du machin, de l'assurance, mais on ne vous a pas détaillé les garanties de l'assurance. Ou alors très rapidement, mais on ne rentre pas dans le détail. Alors que au niveau
en général, c'est dans les supports écrits. C'est dans les supports écrits, les garanties, mais c'est vrai que c'est pas...
Si je te parle d'IPT, d'IPT, d'IPP, tu vas comprendre ce que c'est. J'ai compris la puissance au niveau patrimonial, ce que c'était quand même l'assurance emprunteur. Donc, un mauvais contrat d'assurance emprunteur, ça peut avoir des conséquences énormes. Donc, c'est les trois marchés, en gros, particulier, pro, et l'assurance emprunteur qui peut être sur le marché du particulier et le marché du professionnel.
Moi, je suis passée par tes services pour négocier mon assurance habitation, je crois, de mémoire. Parce que autant les taux d'intérêt des maisons, ils ont augmenté, autant au niveau de l'assurance, il est possible encore de gagner pas mal. Et je t'ai trouvé par le truchement de réseau, bien sûr. Donc voilà, pour tous les indépendants, etc., le réseau, c'est important quand même. Hein. Ne négligez pas ça. Connaissance commune, réseau local, effectivement, parce que je suis passée par... je t'ai connue par Pascal
Pascal,
rond et accessible. Ouais.
Ouais,
tout à fait. Et ça s'est très bien passé. Moi, j'ai eu une bonne expérience. C'est aussi pour ça que je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire intervenir Maxime. Si les gens qui écoutent cette émission veulent faire appel à tes services, comment toi, tu vas savoir qu'ils viennent de l'émission radio? Déjà, si vous contactez Maxime, dites-lui que vous venez de ma part, de la part de Nathalie, l'émission comment, Nouvelle Perspective sur RLP. Et puis, comment on pourrait identifier? Est-ce que tu as prévu quelque chose pour les gens aujourd'hui?
J'ai prévu un petit code promo pour les auditeurs.
Code promo, les amis, notez.
Attention. Bon, j'ai pas fait compliqué, hein. J'ai fait le nom de la radio, RLP.
Ok.
10. Donc, RLP 10.
Ok.
10 pour avoir moins 10% sur les honoraires de courtage en prêt. Comme ça, on ne l'a pas développé, mais je fais du prêt immobilier, prêt professionnel, recoupement de crédit. Donc, moins 10% sur les honoraires de courtage en prêt et aussi sur les courtages, sur le courtage en assurance de prêt. Puisque le REIT, en fait, sur le courtage assurance, je ne prends pas de frais de dossier.
Les amis, RLP 10 pour avoir 10% sur les frais de courtage de Maxime. Si vous voulez renégocier votre prêt, c'est l'occasion. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Est-ce que tu as envie de dire une dernière chose aux auditeurs de RLP, peut-être pour les aider à se reconvertir ou les faire réfléchir s'ils envisagent de changer d'emploi et peut-être de créer une entreprise? Est-ce que tu as un message à leur passer aujourd'hui?
Bien réfléchir déjà à son projet, être certain de son offre, faire une étude de marché, voir si le marché répond, enfin, si l'offre répond au marché, à la demande. Et surtout, il faut être prêt mentalement à se dire que je ne vais pas faire des semaines de 35 heures. Quoi. C'est vraiment, si je quitte le salariat, il faut oublier les horaires de bureau, c'est complètement un changement de vie. Donc.
Ouais. Surtout au début.
Ouais.
Le temps de lancer la fusée. Moi, j'aime bien cette image. Tu lances une boîte, c'est un peu comme si tu lançais une fusée. Tu vois. T'as besoin d'énormément de carburant pour faire décoller dans la stratosphère. Donc, il faut la bonne trajectoire, il faut le bon focus pour l'orienter d'une manière localisée et mettre énormément au départ de carburant le temps qu'elle décolle. Et normalement, si tu as mis la bonne trajectoire, si tu as mis le bon focus pour que ta fusée soit bien envoyée et que tu as mis la bonne énergie, à un moment donné, elle sera en orbite et il faudra beaucoup moins d'énergie. Mais le lancement, effectivement, est très énergivore. Ça te parle, cette image ?
Et peut-être plus ou moins long en fonction du projet. Donc,
ouais.
Moi, j'ai à dire entre 3 et 5 ans. Donc, il faut être prêt mentalement à assumer pour 3 à 5 ans.
C'était ta première reconversion ?
Oui, tout à fait.
Quelle place tient le web dans ta reconversion Internet aujourd'hui ?
De moins en moins, en fait.
D'accord, c'est intéressant.
Oui, c'est marrant. Au départ, quand on lance sa boîte, du coup, on a plus de temps pour communiquer, pour chercher du prospect. Donc forcément, on va aller sur tout ce qui est réseaux sociaux, faire un joli site internet. Sauf qu'aujourd'hui, moi, mon site internet, depuis le début, c'est peu de trafic.
Je mets un warning là-dessus. Les sites internet ont de moins en moins d'impact sur le trafic. Pourquoi ? Parce que tout le monde a le sien, voire les siens, en fait. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un site pour avoir du trafic dessus. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut travailler absolument le référencement web. Et de moins en moins de trafic vient des sites, de plus en plus des réseaux sociaux, notamment, ou de la publicité, ou des fiches Google établissement. Mais si vous pensez qu'il suffit de créer un site Internet pour avoir du trafic dessus, vous vous trompez, ce n'est plus vrai. Voilà. Il fut un temps où Internet n'était pas saturé comme il l'est aujourd'hui, où c'était beaucoup plus simple. Ce n'est plus le cas.
Donc, site Internet, mais je suis quand même en train de retravailler dessus aujourd'hui pour améliorer le référencement, puisque moi, en tant que courtier, que ce soit en prêt ou en assurance, l'offre est quand même assez large. Donc, tu peux me retrouver vite au coin fond d'Internet.
Si ça peut t'intéresser, moi, je suis en pleine formation SEO, référencement web naturel. Donc, bref, on pourra en reparler à part.
Donc, la part du web. Si, beaucoup de réseaux sociaux au début. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins le temps. Donc, là, il faudrait que je réussisse à déléguer à un moment donné, mais ce n'est pas la priorité du moment.
Ce qui est plutôt bon signe, si tu as moins le temps, c'est que tu as plus de clients. Donc,
exactement. Ouais.
C'est pas mal aussi, tu vois. C'est qu'à un moment donné, ça a apporté ses fruits.
Mais en tout cas, la plupart des affaires restent sur le réseau local, le bouche à oreille.
Ouais.
Internet, de moins en moins de place. Alors que pourtant, on dit qu'il faut être sur les réseaux sociaux, sur Alors, si, il y a la fiche Google, quand même, la fiche Google Business, qui est importante pour que les clients laissent des avis. En principe, systématiquement, mes clients laissent un avis pour l'image, notoriété.
Surtout que Google My Business, les avis, et ben maintenant sur la carte, en fait, tu sais, Google Maps, tu vois les établissements, tu peux présélectionner et tu vois les avis en fait associés. Donc tu vois, t'as une connexion en fait entre les avis et Google Maps en plus. Donc tout ça est très interconnecté, c'est important. Ouais. Les avis clients, tout à fait.
Mais sinon, oui, voilà, sur Internet.
D'accord, donc toi, tu as de plus en plus une stratégie de développement local, ce qui est tout à fait compréhensible. Les gens ont besoin de nous connaître, de nous rencontrer, d'avoir un peu des avis. La réputation en local, c'est quand même toujours très important. Ça reste extrêmement, extrêmement puissant. Internet ne s'est pas substitué à tout. Après, moi, je reste convaincue que Internet est quand même très, très important et c'est quand même un canal d'acquisition de clients qui est dans les chiffres hein, en forte croissance, notamment sur la partie réseaux sociaux. Simplement, bah, c'est également en train de devenir très concurrentiel. Donc, il faut faire attention que ce ne soit pas les grosses baleines, entre guillemets, des secteurs qui mangent tout le marché, quoi. Parce que c'est le risque avec Internet, du coup. C'est qu'il y ait des positions monopolistiques qui soient prises avec les petits qui n'ont plus aucune chance en face. C'est pour ça qu'il faut bien se positionner assez tôt.
Ouais, oui, c'est déjà un peu le cas avec le référencement.
Ouais. Après, faire du référencement en local, mais sur Internet, c'est souvent une très bonne stratégie.
Toujours le local. Le local le...
Voilà, local, mais local à Internet. Mais les locaux, s'ils te cherchent sur Internet, ils te trouvent du coup. Maxime Navarro, Limoges. Bah, merci, c'était passionnant. C'est bon pour toi?
Merci à toi.
Merci à toi. C'était Maxime Navarro, RLP10, pour avoir 10% sur les frais de courtage. Le Maxime, profitez-en. On peut faire d'énormes économies et être mieux assuré grâce à ces services. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Maxime Navarro qui est sur Limoges. Vous pouvez facilement, vous l'aurez compris, le retrouver sur Internet, sur LinkedIn aussi. Il suffit de taper Maxime Navarro. Merci beaucoup pour ce récit de reconversion et on te souhaite le meilleur pour la suite.
Merci. Et on peut travailler à distance.
Et on peut travailler à distance, c'est vrai. Nous, on a fait à distance puisque bah, moi, je suis à Périgueux, toi, tu es à Limoges. Voilà. On a fait ça comme ça et c'était très bien. Ça s'est très bien passé. Merci, Maxime.
Merci à toi.
Ciao, ciao.